en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, chers amis. Je vais m'exprimer aujourd'hui devant vous, évidemment, comme officiel du gouvernement, mais plus encore comme chercheur et comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président. Mon propos est issu d'une réflexion que nous avons lancée il y a maintenant 3 ans à l'École normale supérieure avec 2 de mes camarades, Hubert Tardy-Joubert et Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, dans le cadre du Centre interdisciplinaire d'études sur le nucléaire et la stratégie. Son ambition, l'ambition de ce centre, était de revisiter les dilemmes moraux de la dissuasion en associant philosophes et stratèges. Et j'avais en particulier posé une question à peu près impossible à Hubert Tardy-Joubert, qui a nourri notre dialogue constant depuis. Peut-on réconcilier la dissuasion nucléaire avec une vision kantienne de la morale et du projet politique que nous avons hérité des Lumières? Qu'il soit ici remercié, car mon propos à venir, qu'il a bien voulu corriger, lui doivent énormément. Cela reste un effort en cours, une étude en construction, et je vais vous en présenter aujourd'hui un état bien imparfait, qui n'a d'autre ambition que de susciter le débat et la délibération rationnelle. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, on ne saurait imaginer meilleur cadre que l'Académie des sciences morales et politiques pour cela, et je voudrais vous en remercier chaleureusement et du fond du cœur. Les 6 et 9 août 1945, en effet, l'humanité comprend qu'elle dispose désormais des moyens de sa destruction totale. C'est une rupture profonde dans notre histoire. Dans les mois qui suivent Hiroshima, se développent des mouvements de pensée qui remettent en cause, sur des fondements éthiques, l'existence même d'une arme d'une nature aussi différente. Cette critique, à la fois éthique et politique, de l'arme nucléaire traverse toute notre histoire contemporaine. Elle soulève des questions essentielles pour une démocratie comme la France. Et pourtant, cette question de l'éthique des armes nucléaires fait en règle générale l'objet de 2 débats, totalement séparés, comme le disait déjà Pierre Hassner en 89. Le premier débat est de nature philosophico-religieuse. Il interroge les réalités stratégiques au prisme de la morale. Et le second est un débat politico-stratégique sur la dissuasion. Les deux interviennent dans des mondes séparés qui se parlent peu et s'écoutent encore moins. Il s'agit bien ici d'approfondir la réflexion, le savoir, c'est-à-dire la délibération et l'argumentation. Comme l'a dit John Eye, ce penseur américain, ce stratège américain, dans l'introduction d'un de ses livres en 86, nous sommes tous dans nos démocraties des cibles, des victimes et des participants à la dissuasion nucléaire. Il doit donc s'agir ici d'élaborer un raisonnement moral et non d'en rester à la simple émotion, comme il le disait lui-même, à un cri d'indignation morale. Pour éviter de se disperser et pour concentrer un débat qui a finalement très peu occupé les Français dans leur histoire nucléaire, il est utile de fixer un cadre intellectuel à notre entreprise. 3 positions extrêmes ne seront pas examinées ici. Non qu'elles ne soient pas intéressantes d'ailleurs, mais elles nous empêcheraient simplement de penser l'arme nucléaire dans sa spécificité. La première d'entre elles est simple. Les relations internationales et les rapports de puissance entre États seraient par nature amoraux. Ce serait là une maxime de réelle politique poussée à son comble, pour laquelle la moralité n'est pas une question pertinente du débat stratégique. Comme nous vivons dans un monde international purement hobbesien, où seuls les rapports de force comptent, la question ne se pose pas. Raymond Aron pouvait écrire en 76 « Quiconque aujourd'hui réfléchit sur les guerres et la stratégie élève une barrière entre son intelligence et son humanité. » On pourrait aussi citer Thucydide « Le fort fait ce qu'il veut, le faible souffre ce qu'il doit. » Deuxièmement, nous rejetterons aussi l'idée que puisque d'autres États envisagent l'emploi de l'arme nucléaire, nous avons simplement le droit de les imiter, que l'état du monde nous exonère de toute réflexion morale correspondant à la nature profonde de nos sociétés démocratiques. Notre débat ici part du point de vue d'une démocratie classique qui est fondée dans son organisation intérieure sur un ensemble de normes et notamment sur certaines valeurs et principes où l'adjonction de 2 mots ne font pas un bien. Aujourd'hui encore, nous ne saurions exonérer par principe nos démocraties d'une telle réflexion morale et plus généralement d'une interrogation normative sur la dissuasion. La troisième maxime à rejeter à ce stade pour cadrer notre réflexion est inverse. La guerre serait par principe immorale puisqu'elle consiste à donner la mort, ce qui équivaut au meurtre. Il faudrait donc à une morale de la guerre, qui est une contradiction dans les termes, sinon suit la proposition que je viens de mentionner, substituer complètement une éthique de la paix et un pacifisme absolu. Pourquoi dans cette optique alors réfléchir à la dimension morale ou immorale ou amorale des armes nucléaires puisque c'est toute la guerre qui, par principe, serait immorale. Le débat qui nous occupe porte sur cet entre-deux, c'est-à-dire sur la moralité ou l'immoralité de l'arme nucléaire et de ses différentes doctrines stratégiques. À cet égard, certaines approches éthiques devraient par nature être inconciliables avec l'arme nucléaire. Ce devrait être le cas de l'impératif catégorique kantien ou de l'éthique de conviction analysée par Max Weber. Pour autant, gardons à l'esprit ces théories, et j'y reviendrai, et ces catégories, car il est rare que ces approches soient pures et parfaites et n'intègrent pas dans leur réflexion morale un souci et une attention aux conséquences des actes et des menaces. Et par ailleurs, j'y reviendrai plus loin, l'aspiration vers certaines fins que met en lumière ce type de théorie morale est profondément liée à la part idéaliste, au sens philosophique du terme, de nos démocraties et du mouvement des Lumières qui leur a servi de cadre d'élaboration. À l'inverse, certaines approches stratégiques sont pour le coup incompatibles avec un réel débat et je les écarterai donc. Si la stratégie est une science apodictique avec des conclusions certaines qui reposent sur une prédiction déterministe, le débat est nécessairement clos. Si l'échec de la dissuasion est inévitable et certaine l'impossibilité de contrôler l'escalade, aucun débat moral n'est possible. Nous devons donc postuler qu'il n'y a, comme le disait Asner, pas de vérité scientifique ultime à la stratégie nucléaire et reconnaître une forme d'ignorance et d'incertitude. C'est ce qui explique le besoin d'un véritable croisement d'approches stratégiques, philosophiques et religieuses. Aucun de ces trois champs ne peut épuiser à lui seul le débat. Il est facile d'être abstrait et de déconnecter la morale des réalités stratégiques, comme il peut être tentant de ne regarder que la réalité des rapports de force stratégiques sans les confronter aux grands principes moraux de nos sociétés occidentales. Je voudrais ici commencer mon propos par une approche historique de la critique morale de l'arme et de la dissuasion nucléaire, car trois grandes étapes peuvent être distinguées. La première de ces grandes étapes couvre la période des années 45 aux années 65. Les frappes sur Hiroshima et Nagasaki font alors découvrir au plus grand nombre l'horreur absolue d'une guerre nucléaire. Le sentiment naît qu'une guerre nucléaire globale est devenue inévitable. Les appels se multiplient pour soit mettre les armes nucléaires sous un contrôle mondial total, soit entièrement les supprimer. La première phase de la guerre froide qui couvre l'ensemble des années 50 et le début des années 60 est caractérisée par la course massive aux armements nucléaires et un certain nombre d'éléments sur lesquels je ne reviens pas. C'est une époque de floraison des questionnements éthiques et religieux sur l'arme nucléaire dans les pays occidentaux. Les églises réfléchissent à ce problème moral d'une radicalité nouvelle, une première vague de publications s'enclenche, les débats mettent en place nombre des questions qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Les théories classiques de la guerre juste, du double effet, s'appliquent-ils ? Ou l'arme nucléaire, dont l'emploi est pensé en termes de représailles massives alors, est-elle tellement radicalement nouvelle qu'elle transforme la nature même du problème éthique de la guerre ? Je ne vais pas ici rentrer dans les détails de ce premier débat, mais quelques moments forts méritent d'être notés. De vrais mouvements pacifistes naissent en Allemagne. Au Royaume-Uni est créée la Campaign for Nuclear Disarmament. Le mouvement unilatéraliste et pacifiste se développe, notamment au sein du Parti travailliste, et on citera le poids intellectuel de Bertrand Russell. Le grand débat portait alors sur le ciblage intentionnel de larges villes et centres de population. Du côté des églises, les églises protestantes adoptent, elles, très tôt, une attitude pacifiste radicale. L'église catholique suit, elle, un chemin plus sinueux. Les autorités tentent de définir les conditions d'une acceptabilité morale de la dissuasion nucléaire avec quelques grandes lignes de force qui sont codifiées lors du Concile Vatican II. Deuxième grand temps de notre histoire, les années qui vont, je dirais, de la fin des années 70, années 78-79, jusqu'au milieu des années 80 et à la fin de la guerre froide. Le deuxième grand temps du débat, morale occidentale, correspond à la montée des tensions Est-Ouest, à partir de la fin des années 70, marquée par une course forte aux armements. Et deux développements stratégiques alimentent tout particulièrement ce débat. D'abord, les travaux lancés par les États-Unis, suivis par d'autres, sur l'arme à neutrons. Et puis ensuite, plus encore, le débat moral et politique renouvelé qui s'inscrit dans la crise des euromissiles. C'est l'époque des manifestations, des slogans, le fameux « better red than dead », mieux vaut être rouge que mort. La renaissance et l'élargissement du mouvement pacifiste est alors plus profond et plus puissant, y compris aux États-Unis. Deux groupes sociaux, les savants et les églises, y jouent un rôle clé. C'est un mouvement vaste de dévaluation de la dissuasion nucléaire qui ne touche pas que les milieux pacifistes ou contestataires. Les États-Unis en particulier cherchent alors à remplacer l'arme nucléaire par d'autres concepts qui ne reposent pas sur le seul risque de dévastation nucléaire de l'adversaire. On se rappellera de la volonté de Ronald Reagan en 1983 de dépasser la dissuasion grâce à la défense antimissile ou la dissuasion conventionnelle. Et ce discours contient une très forte critique morale de la dépendance aux armes nucléaires. Ce deuxième mouvement de la paix prend dans certains pays un tour radical. La guerre nucléaire y est alors décrite comme un mal ultime, absolu. L'arme nucléaire révèle la vraie nature de la guerre, c'est-à-dire simplement celle du meurtre de masse, entend-on à l'époque. Dans les conditions actuelles, dit Jean-Paul II dans son fameux message de 82, une dissuasion basée sur l'équilibre, non certes comme une fin en soi, mais comme une étape sur la voie d'un désarmement progressif, peut encore être jugée comme moralement acceptable. C'est dire que les religieux, qu'ils soient catholiques ou du monde juif, peuvent à ce moment développer une théorie morale qui vise à accepter de façon transitoire la dissuasion et à ne pas la rejeter comme d'autres dans le pacifisme pur. Le troisième temps de notre débat nous revient au début des années 2000, au milieu des années 2000. Après la fin de la guerre froide, stratèges, experts, philosophes perdent en effet de vue l'intérêt de la dissuasion en l'absence de menaces totalitaires. Passent alors au premier rang des réflexions, les menaces terroristes et le risque de convergence entre terrorisme et faits nucléaires. Le mouvement Global Zero, lancé aux États-Unis en 2008 et officialisé dans le fameux discours de Prague du président Obama en 2009, exprimant sa vision d'un monde libre d'armes nucléaires, puis dans le mouvement dit des conséquences humanitaires, qui passe par ces trois fameuses conférences à Oslo, à Nayarit et à Vienne, aboutit au traité d'interdiction des armes nucléaires en 2017, et toute cette séquence comporte une dimension morale essentielle. Ces prises de position reposent sur un diagnostic historico-moral. Ce qui était acceptable du bout des lèvres pendant la guerre froide ne l'est plus, puisque la menace totalitaire a disparu, l'arme nucléaire n'a plus de justification. C'est l'application au domaine nucléaire du raisonnement moral du désarmement humanitaire qui a conduit par ailleurs à l'interdiction des armes chimiques, biologiques ou des mines antipersonnelles ou des sous-munitions. Le raisonnement moral prend le pas sur l'intérêt stratégique. Mais à cet argument se sont ajoutés deux autres arguments moraux. Le premier repose sur une norme de justice, le caractère inégalitaire de la possession légale de l'arme nucléaire au titre du traité de non-prolifération. Le second argument est relatif à la préservation des générations futures et recoupe les préoccupations environnementales au fondement du principe de précaution. La fin de la guerre froide permet un rapprochement des positions d'une partie du monde religieux et en particulier des confessions catholiques et protestantes. L'arme nucléaire étant par nature mauvaise, elle doit être supprimée. Je ne rentre pas dans tous ces débats, mais cette troisième floraison de débats moraux et éthiques est donc différente. L'accent est mis davantage sur le caractère inacceptable des conséquences d'une guerre nucléaire en termes humanitaires, environnementaux ou générationnels. Dans ce survol rapide, la singularité de la France dans ces trois temps du débat, au regard des Américains, des Britanniques ou des Allemands par exemple, est frappante. Le débat moral y est à chaque fois moins fort, moins profond, moins large, moins prégnant. Il n'est pas absent naturellement, mais il ne prend pas politiquement. Et d'ailleurs, ce thème n'a pas été abordé dans les discours des présidents successifs sur la dissuasion, et probablement pour trois grandes raisons. Première raison, c'est que le poids de la religion dans la définition morale des politiques publiques en France y est structurellement plus faible que chez nombre de nos partenaires. Deuxième raison, la dissuasion est pour la France, depuis De Gaulle, consubstantielle des notions de souveraineté et d'indépendance nationale, marqueur de notre identité depuis le traumatisme de juin 40 et des crises de la fin de la 4e République, et en particulier évidemment Suez et l'Indochine. Troisième raison, la doctrine nucléaire française de dissuasion, et qui est une doctrine d'empêchement de la guerre, nous interdit de penser son emploi dans un conflit. Elle pose en effet comme principe absolu que la dissuasion fonctionne avec certitude et est garante de la stabilité. Et donc le débat moral est sans objet. En France, poser le débat moral, ce serait donc tout à la fois perdre la foi dans la crédibilité et l'efficacité de la dissuasion, mais ce serait aussi accepter la guerre nucléaire limitée, l'échec de la dissuasion, et ce serait même porter atteinte à notre souveraineté. Alors pourquoi aujourd'hui reposer la question de la morale sur la dissuasion ? Pour plusieurs raisons, je trouve, nous devons le faire. Première raison, nous sommes à la fin d'un cycle politique et stratégique qui s'est ouvert il y a à peu près 25 ans en Europe et en Occident et qui reposait, après la fin de la guerre froide, sur la décroissance progressive en tendance, en tout cas le croyait-on, du fait nucléaire et des rapports de force pure dans le jeu international. Après la fin d'une menace totalitaire, la dissuasion était vouée à perdre du sens et de l'intérêt. Mais nous redécouvrons depuis le milieu des années 2010 que les menaces de la force, comme l'a dit un livre blanc précédent, restent importantes et que d'autres acteurs étatiques conservent une logique technologique agressive et nucléaire. Mais au-delà, une question politique et morale plus profonde nous est posée, qui a trait non à la stratégie nucléaire elle-même, mais à l'organisation du monde. L'ère des totalitarismes n'est plus, mais il est évident que l'ambition établie après 1945 d'un ordre mondial, tendant progressivement vers la coopération, le droit et le multilatéralisme, aussi précaire, imparfaite et parfois illusoire a-t-elle été, est aujourd'hui contestée comme jamais. Autoritarisme, dérives dites illibérales, remise en cause et destruction des normes de droit, blocage ou affaiblissement du multilatéralisme, primauté des pures logiques de force et de puissance militaire, retour des risques de guerre majeure. Les tendances inquiétantes d'évolution du monde se multiplient en ce début d'année 2019. Et deux tendances s'affrontent dans ce contexte. L'une est à dominante morale, et elle a abouti au traité d'interdiction des armes nucléaires adopté en 2017, qui pose comme une fin inconditionnelle la suppression de ces armes. L'autre, qui se qualifie elle-même de réaliste, assume de façon décomplexée les responsabilités de la puissance militaire. Mais sommes-nous condamnés à cette opposition binaire et stérile entre nouvel abolitionnisme inconditionnel ou cynisme militaire ? C'est cette question qui me semble légitime et qu'une démocratie européenne comme la France ne peut plus éviter. Pour esquisser des pistes de réponse, deux grandes voies nous sont ouvertes. La première, elle est très classique, et elle a finalement irrigué la totalité des réflexions morales sur la dissuasion depuis 1945. Comme il existe une physique des extrêmes associée au fonctionnement de l'arme nucléaire, peut-on identifier une éthique de la guerre des extrêmes ? La seconde piste, très présente dans les toutes premières années de l'ère nucléaire et qui disparaît ensuite, vise un discours plus complexe et plus complet d'explications philosophiques en conjuguant l'enjeu moral propre à la dissuasion nucléaire et les finalités historiques de notre action internationale. Et ce sont ces deux grandes thèses que je voudrais aborder maintenant. Premièrement, les critères de la guerre juste appliqués à l'arme nucléaire. La question centrale ici revient à examiner chacun des grands critères de la guerre juste, tels qu'ils ont été définis depuis Saint-Augustin et Saint-Thomas d'Aquin, et à les appliquer à ces deux objets que sont l'arme nucléaire et la dissuasion nucléaire. La rupture anthropologique essentielle que représente l'irruption de l'humanité dans l'âge nucléaire fait-elle donc voler en éclats l'éthique classique de la guerre, comme l'a soutenu par exemple Walzer, cet auteur américain des années 80 ? Ou ne fait-elle que rendre plus apparent et plus aigu les innombrables paradoxes moraux de la guerre elle-même ? Prenons quelques-uns de ces critères. Le critère de l'autorité légitime, par exemple. Au cœur des théories de la guerre juste figure en effet la notion d'autorité légitime. La décision d'engager la guerre, et donc de donner la mort, doit être prise par la seule autorité politique. Mais comment définir la légitimité des décisions nucléaires dans une démocratie comme la nôtre ? Il faudrait pour cela, car je n'aurai pas le temps de le faire, distinguer les différentes décisions et les différentes autorités qui interviennent dans la dissuasion nucléaire. Décision de lancement du programme, financement du programme, définition de la doctrine, planification des forces, plan de ciblage, entraînement. La décision d'emploi de l'arme à la guerre ne serait en fait que la résultante de toutes ces décisions préalables. Et pourtant, c'est souvent sur ce seul élément, la décision d'emploi, que porte la réflexion sur l'autorité légitime. C'est la situation extrême, dans cette éthique de l'extrême dont relève la dissuasion. Et la personnalisation de la stratégie de dissuasion, chez nous, dans le président de la République, et le fait que la théorie de la guerre juste réfère généralement l'autorité légitime à la figure du prince, ne doit pas nous faire oublier que nos systèmes politiques rendraient impossible et sans objet la question de la légitimité de la décision d'emploi sans que toutes les autres décisions préalables n'aient été prises. Comment alors définir cette autorité légitime dans le domaine nucléaire ? Et cela nous ramène ici à reprendre tout simplement la question sous l'angle de la philosophie politique et de la définition du souverain. Car ce dont il est question ici, dans la dissuasion nucléaire, comme dans la guerre en général, c'est de la préservation de la communauté politique, de la survie de la nation et de la forme politique et juridique qu'elle s'est donnée, l'État. Comme le dit Kant, toute atteinte à l'État est une atteinte à la forme politique que les peuples se donnent pour exercer leur liberté. Et dans nos démocraties contemporaines, la responsabilité de décider de la guerre est encadrée par un référentiel, un corpus de normes sécularisées, qui définit les limites et les principes intangibles de ce droit de légitime défense, le droit international public et les principes fondamentaux des droits de l'homme. Dès lors, la tension inévitable entre la préservation de l'existence même de l'État et le respect de certains principes fondamentaux doit être arbitré par une autorité dont la légitimité est susceptible de puiser à plusieurs sources. Là non plus, je n'aurai pas le temps de développer, mais on peut citer la loi elle-même, évidemment, le charisme et la tradition, et puis surtout les procédures de délibération collective et la confiance qu'elles permettent dans les institutions. Dans tous les cas, légitimité et publicité vont de pair. La décision et l'autorité qui la prend ne seront considérées comme légitimes que si un espace public a pu être constitué, si un discours rationnel, clair, honnête, justifie la politique suivie. C'est sans doute cet aspect, sous cet aspect-là, que la tension est la plus vive dans le champ de la dissuasion nucléaire, entre le besoin de concertation et de cohésion et celui du maintien du secret. Tout particulièrement pour ce qui relève, par exemple, de la définition des intérêts vitaux, dont l'ambiguïté et l'imprécision sont au cœur de la doctrine de dissuasion et qui pourtant font partie du cœur de ce que devrait être la définition du corps politique par le souverain et donc par le peuple. Dès lors, en France, par l'élection du président de la République au suffrage universel direct, par la participation de ses représentants au vote de l'impôt et à la définition de la politique publique de défense, le peuple participe dans notre démocratie, parfois directement, le plus souvent indirectement, à légitimer cette politique exorbitante au regard du droit commun que représente la légitime défense assurée par la dissuasion nucléaire. L'arme nucléaire porte ici à son paroxysme des débats finalement très classiques sur le souverain et la guerre. La guerre nucléaire emporte la possibilité finale d'une non-existence, celle de l'État et de la nation elle-même. Mais fait-elle voler en éclats ce critère de la guerre juste ? Pas sûr. Encore faut-il vérifier au moins que l'espace du débat public existe suffisamment, que l'énoncé de la politique de dissuasion soit renouvelé publiquement et régulièrement, et que le choix libre et rationnel de ceux qui accordent leur confiance à l'autorité responsable soit garanti. Deuxième critère, celui de la guerre juste, qui relève de la cause juste et de la bonne intention. Car, Monsieur le Président, dans l'éthique de la guerre, l'autorité légitime, une fois qu'elle a été définie, doit avoir une cause juste de faire la guerre et elle doit prendre cette décision avec une bonne intention. Cette intention droite, dit saint Augustin, est celle qui poursuit le bien, la paix et la justice. Elle ne saurait être une simple volonté de punir, de rétribuer, de dominer. Elle est volonté de faire le bien et d'éviter le mal. Cette vision finalement très chrétienne, le rabbin Haïm Korsia me pardonnera, je l'espère, de la morale fait de l'intention du fort intérieur le paramètre essentiel. La Cour internationale de justice s'est refusée dans son avis de 1996 à conclure à l'illégalité de principe absolue et inconditionnelle des armes nucléaires. Elle avait en effet statué qu'elle ne peut, je cite, « conclure de façon définitive que la menace ou l'emploi d'armes nucléaires serait licite ou illicite dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d'un État serait en cause ». Cet élément clé a été interprété par la France, comme par les autres États dotés, comme ne remettant pas en cause, mais confortant la licéité de sa doctrine de dissuasion, qui précisément vise des circonstances extrêmes de légitime défense, où la survie de la nation est en jeu. Si l'intention et la cause sont justes, donc, la protection de l'État contre une menace mettant en jeu sa survie même, la dissuasion n'est pas illicite. Elle n'en pose pas moins des dilemmes moraux extrêmement lourds. Car dans les justes causes, il faut distinguer probablement plusieurs éléments. Tout d'abord, la légitime défense, proprement dite, recouvre le droit à survivre comme entité politique étatique. Mais comment la définir, effectivement, cette survie ? John Hay, lui encore, indique que l'objectif de la menace ne saurait être limité à la seule survie de l'espèce ou des individus de la collectivité. Il faut l'élargir, dit-il, aux valeurs, à la liberté qui donne de la valeur à nos vies au-delà de leur seule existence. Mais pour autant, ajoute-t-il, pas de croisade pour promouvoir les valeurs démocratiques et occidentales à l'abri de l'arme nucléaire, car il faut éviter l'hubris, dit-il, ce qui semble disqualifier les doctrines de sanctuarisation agressive et ou de chantage, par exemple. Pour autant, cette conception soulève un problème évident d'interprétation et de compréhension des intentions d'un État. Et l'histoire entre l'URSS et les États-Unis en particulier nous en donne un certain nombre d'exemples. Car ce que nous estimons, nous, agressif et offensif, peut être vu par l'autre comme profondément défensif. Deuxième élément, l'objectif de la prévention de la guerre. Car l'objectif de prévention de la guerre et de maintien de la paix recouvre, lui, une version plus générale et absolue de la dissuasion et de cette juste cause. Elle n'agit pas pour protéger un État, pour protéger une collectivité dont le prince est responsable, mais l'humanité même d'une guerre totale entre puissances majeures. L'arme nucléaire devient alors une arme totalement paradoxale d'interdiction de la guerre. Cette cause-là ne peut être que louable et juste, a priori. Mais elle pose le problème de l'intention de la menace elle-même. Ce qui nous amène à la théorie du double effet, telle qu'elle a été appliquée à la dissuasion par Michael Quinlan. Michael Quinlan, ce célèbre fonctionnaire britannique, civil du ministère de la Défense, qui a consacré une partie de son existence aux questions morales de la dissuasion. Sir Michael Quinlan a en effet consacré beaucoup de temps à développer une pensée propre sur l'éthique de la dissuasion nucléaire. Non pas des armes nucléaires en elles-mêmes, mais de la politique de dissuasion, de la stratégie de dissuasion. Il a fait appel pour cela à la doctrine du double effet, thèse classique de philosophie morale qui vise à expliquer dans quelles circonstances il est permis de commettre une action ayant à la fois de bonnes et de mauvaises conséquences. Cette thèse, cette théorie soutient qu'il est parfois justifié de produire une conséquence mauvaise si elle est seulement un effet secondaire de l'action et non pas intentionnellement recherchée. Ainsi, l'action de se défendre peut entraîner un double effet. Le premier effet est la conservation de sa propre vie. L'autre, la mort de l'agresseur. Une telle action sera donc licite, dit cette théorie, si l'on ne vise qu'à protéger sa vie, puisqu'il est naturel à un être de se maintenir dans l'existence autant qu'il le peut. Mais cependant, un acte accompli dans une bonne intention peut devenir mauvais quand il n'est pas proportionné à sa fin. Si donc, pour se défendre, on exerce une violence plus grande qu'il ne faut, ce sera illicite. Cette thèse est au fondement des principes juridiques du droit de la guerre en particulier, développé depuis la Seconde Guerre mondiale et notamment dans les développements sur l'application des conventions de Genève. Michael Quinlan a cherché à appliquer cette théorie du double effet à la dissuasion nucléaire. Je ne rentrerai pas ici dans tous ces développements, et la faiblesse qui lui est souvent opposée tient à l'absence même, dit-on, de sens commun dans la proportion qu'il faudrait établir entre la menace d'emploi d'une arme nucléaire et ses effets incidents. Cette pensée est en fait profondément marquée par l'époque de la guerre froide. Et elle représente un effort philosophique original, mais très contesté, pour justifier moralement et par essence la dissuasion nucléaire, et notamment l'application du principe de l'intention droite. On parle souvent dans la littérature, et en particulier la littérature anglophone, du paradoxe de l'intention dissuasive, qui a pour objectif de ne pas réaliser ce qu'elle a l'intention de faire. Est-il moralement acceptable, si l'on suit ce paradoxe, d'avoir l'intention d'agir lorsque son action viserait la mort de milliers d'innocents? Ou dit autrement, est-il moral d'avoir l'intention de faire quelque chose d'immoral? Cette question-là, qui cherche à différencier la menace, c'est-à-dire l'intention, et l'emploi, c'est-à-dire le passage à l'acte, est au cœur d'une très grande partie de la littérature américaine des années 80 sur l'éthique nucléaire. Toute une série de travaux cherche à atténuer ce paradoxe et à expliquer qu'en dissuasion, il pourrait être bon d'avoir l'intention d'une action, même si cette action est mauvaise, si elle permet d'éviter la réalisation d'un mal. Nous sommes là au bout du raisonnement sur les critères de la guerre juste. Si la juste cause est la légitime défense ou l'interdiction de la guerre, alors notre intention dissuasive, cette intention paradoxale, pourrait avoir trois objectifs différents. Faut-il premièrement considérer que seul le bluff serait susceptible de remplir le critère de l'intention droite? Autrement dit, faudrait-il que l'intention intime chez nous du président soit de ne jamais ordonner de représailles nucléaires? L'ambiguïté, l'incertitude joueraient chez l'adversaire leur fonction dissuasive, et donc l'intention serait par essence morale. Faut-il considérer, deuxième hypothèse, que la valeur dissuasive de la menace provient nécessairement des dégâts et des dommages faits aux civils, même s'ils ne constituent pas la cible directe des représailles? Auquel cas, il devient assez difficile, reconnaissons-le, d'appliquer la théorie du double effet, car l'effet dissuasif proviendrait directement des dommages collatéraux. Si, troisièmement, on considère que l'intention intime dissuasive consiste non pas dans le châtiment, dans la logique rétributive, mais dans le rétablissement de la dissuasion, en visant les forces adverses ou en visant les éléments ayant le plus de valeur aux yeux du décideur de l'agression, pour lui faire stopper son agression, alors le double effet fonctionne. Mais vous voyez, en poussant ce débat sur l'intention de la frappe nucléaire et non simplement sur la menace, on pousse toute la stratégie nucléaire vers l'emploi. La tension entre stratégie et morale, enfermée dans les catégories et les critères de la guerre juste, atteint ici son apogée. Le critère de la bonne intention ne fait pas nécessairement voler en éclats l'application à la dissuasion des théories de la guerre juste, mais elle tend les dilemmes et les paradoxes préexistants à leur extrême. Le dernier critère, il y en a bien d'autres, c'est celui de proportionnalité et de distinction. Je passerai rapidement pour raccourcir mon propos. Et j'arriverai à cette conclusion sur la guerre juste. Existe-t-il donc des doctrines nucléaires qui seraient morales au regard des critères de la guerre juste ? Et quelles seraient alors les maximes et les principes tirés de l'éthique de la guerre que nous pourrions appliquer ? Faisons cette tentative ensemble. Premièrement, l'arme nucléaire ne vaut que dans un contexte strict de légitime défense. Le monde est encore fondé sur la souveraineté des États, qui garantissent le libre exercice de la volonté des peuples et peuvent donc prendre les mesures nécessaires pour assurer leur survie. Cette légitime défense doit être à la fois une cause juste, elle doit donc suivre effectivement un fait, une attaque initiale, et elle doit relever d'une bonne intention, c'est-à-dire qu'elle doit poursuivre de bonne foi et sans duplicité l'objectif unique de faire cesser l'agression et non pas cacher d'autres motivations. Cette juste cause de la légitime défense doit aussi avoir une relation particulière avec des objectifs plus généraux de politique étrangère, ce que John Hay, encore lui, a appelé une cause juste mais limitée. Elle ne peut pas être la couverture d'une volonté agressive de transformation de l'ordre mondial. Et c'est là, comme je l'ai dit précédemment, une façon de condamner un certain nombre de doctrines de sanctuarisation agressive où l'intention de la menace nucléaire n'est plus la préservation de la survie de l'État et de la nation, mais la promotion active de ses intérêts. Deuxième maxime, sur les conditions d'emploi de l'arme nucléaire à la guerre. Parce que ce droit à la légitime défense, si juste soit la cause et si droite soit l'intention, n'autorise pas tout et nécessite de prendre en compte les droits fondamentaux de l'individu, principe normatif fondamental dans nos démocraties. Le premier principe dans cette approche relève ou relèverait d'un refus de principe du ciblage antidémographique. L'efficacité dissuasive ne peut pas, si l'on veut rendre la dissuasion acceptable sur le plan moral dans le cadre qui est celui de la guerre juste, reposer sur la menace directe de mort d'une partie de la population civile d'un État agresseur. La menace de représailles nucléaires devrait donc viser plutôt l'avenir, c'est-à-dire le rétablissement de la dissuasion et l'arrêt de l'agression entamée. L'emploi effectif de l'arme nucléaire devrait donc logiquement être proportionné à ce seul objectif, si proportion il peut y avoir, avec un impératif de minimisation des victimes civiles au strict nécessaire pour garantir cet objectif. Troisième critère, troisième paramètre, la définition des conditions de l'autorité légitime. La nature radicale des décisions à prendre dans le domaine nucléaire militaire nécessite de fonder avec soin la légitimité de l'autorité décisionnaire. Et un objectif se fait jour alors, c'est celui de favoriser au maximum la délibération collective et rationnelle avec le Parlement, au sein du Parlement, au sein même de l'administration, entre plusieurs ministères, plusieurs corps constitués et finalement entre toutes les personnes susceptibles d'être concernées par une décision rationnelle. Il faut donc, en théorie, favoriser la publicité des décisions et de la délibération chaque fois que c'est possible, favoriser la constitution d'un espace public de la dissuasion nucléaire et assumer un réel devoir d'explication honnête et régulière des justifications de l'arme nucléaire. Et votre séance aujourd'hui, si je peux me permettre, est déjà un premier pas dans la constitution de cet espace public. Troisième temps de mon raisonnement. Peut-on dépasser la guerre juste et peut-on fonder une morale des armes nucléaires ou une morale de la dissuasion nucléaire sur autre chose que la guerre juste ? Commençons par critiquer l'application de ce concept de guerre juste et de l'éthique de la guerre à la dissuasion nucléaire. Parce que le questionnement moral relatif aux armes nucléaires tel qu'il a aujourd'hui lieu trouve encore l'essentiel de ces concepts dans les théories de la guerre juste. Or, cette manière d'envisager la question est loin, je trouve, de recouvrir la totalité des problèmes moraux que posent les armes nucléaires. Car sa force, la force de cette approche, est au fond dans sa démarche qui vise à caractériser concrètement, précisément, ce que seraient les effets d'un affrontement nucléaire. Mais on peut voir les choses autrement et considérer que ce caractère analytique est en réalité la signature d'une abstraction philosophique. Pour une raison simple d'abord, en voulant caractériser la singularité de ce qu'est une arme de dissuasion par les concepts d'une éthique de la guerre, cette manière d'aborder la question prend le risque de manquer son objet. Les critères de la guerre juste ne sont pas opératoires quand on veut distinguer et singulariser sur le plan moral la menace d'une part et l'emploi d'autre part. Autre paradoxe, les partisans de la dissuasion, en cherchant à trouver une acceptabilité morale des armes nucléaires selon les critères de la guerre juste, proportion, discrimination, etc., courent le risque de participer à une forme paradoxale d'abaissement du seuil nucléaire. mais de façon parfaitement symétrique, en se focalisant sur la seule image apocalyptique d'un conflit nucléaire, les partisans de l'abolition inconditionnelle s'interdisent de saisir la dissuasion dans la totalité de ses aspects qui supposent, elle, de penser la morale dans sa relation et à la politique et à l'histoire. La difficulté ici tient à ce que la dissuasion est prise dans une double antinomie morale. En elle-même, sa rationalité tient au fait qu'elle contient la violence, contient aux deux sens du terme, c'est-à-dire qu'elle est cette stratégie, elle est raison, langage, force à la fois, qui intériorise une violence sans comparaison possible pour la limiter, c'est-à-dire pour en interdire l'emploi. Elle contient donc la violence dans le deuxième sens du terme. Les armes nucléaires sont depuis 1945 l'incarnation même de la démesure de l'homme. La dissuasion et paradoxalement une stratégie de limitation de cette démesure. La dissuasion nucléaire intériorise la violence pour travailler à sa négation. Et ce constat ouvre sur une seconde antinomie en rapportant la dissuasion à un bien politique autre, suprême pourrait-on dire, que représente la paix. C'est sans doute la tension fondamentale qui oppose aujourd'hui, comme hier, partisans de l'abolition inconditionnelle et partisans de la dissuasion cynique pourrait-on dire. Et d'une perspective de désarmement qui est fonction des évolutions stratégiques. Car la paix peut s'entendre finalement de deux manières. D'abord de façon négative. La paix, c'est l'absence de conflit. Mais deuxièmement, au sens plein, c'est une coopération réelle qui peut aller même jusqu'à une forme de société internationale. Et cette idée est une idée de la raison, une idée régulatrice au sens kantien du terme. Le désarmement complet et un monde libéré des armes nucléaires relèvent d'une telle notion. Il ne s'agit pas d'ailleurs nécessairement d'une chimère ou d'une utopie, mais d'un principe normatif à partir duquel ordonner nos actions dans l'histoire. Elle ne démontre pas la nécessité inéluctable d'un progrès historique, elle nous oblige à agir pour le faire advenir. Mais puisque la dissuasion implique une relation d'hostilité minimale, elle limite nécessairement les aspects coopératifs de la paix et rend le processus de désarmement incertain dans sa progression et son achèvement. C'est ce sur quoi précisément insistent les partisans du désarmement immédiat en pointant une contradiction normative entre les garanties qu'apporte la dissuasion et la perspective historique du désarmement. La rationalité dissuasive ici ne suffit pas à la paix au sens plein du terme, naturellement. La rationalité dissuasive fonde simplement un ordre politique où l'accord des parties ne repose pas sur une convergence morale, sur l'identification commune d'un bien, mais sur la menace réciproque de la violence qui conduit à sa suspension. C'est cela qui fait aussi l'instabilité de cette relation, parce qu'elle ne dépasse pas le rapport de force, elle s'y installe, elle fait émerger en son sein une régulation de la violence qui suppose son maintien, ne serait-ce qu'à l'état de simple possible. C'est là le caractère biphase de la dissuasion. Elle est à la fois un rapport de force, une course aux armements, une course à la mort, pourrait-on dire, d'une part, mais elle est aussi une neutralisation réciproque de la violence, de l'autre, contrôle, accord, désarmement juridiquement contraignant. On ne sort pas ici de l'ordre de la force pour rentrer dans un ordre purement et simplement moral. C'est de l'intérieur même du rapport de force qu'une relation nouvelle émerge, celle d'une dissuasion réciproque. Comment alors, une fois cette critique posée, essayer de reconstruire une théorie morale de la dissuasion sur d'autres bases. Première maxime. L'entrée dans l'âge atomique est un événement ontologique où l'humanité se révèle à elle-même comme une liberté. Cette prise de conscience d'une responsabilité absolue de l'homme sur son propre destin est précoce, dès les lendemains d'Hiroshima. Sartre, pour prendre un exemple, écrit « Il fallait bien qu'un jour l'humanité fût mise en possession de sa mort. Chaque matin, nous serons à la veille de la fin des temps. L'humanité tout entière, si elle continue de vivre, ce ne sera pas simplement parce qu'elle est née, mais parce qu'elle aura décidé de prolonger sa vie. » L'arme nucléaire est ici un opérateur d'universalisation. Le monde et l'humanité sont doués d'une consistance propre parce que par l'intermédiaire de la bombe atomique, ils peuvent se rapporter à leur propre disparition. L'arme nucléaire, comme dit Sartre, réalise l'homme. Elle opère une transformation métaphysique de l'homme qui dispose désormais des moyens de sa propre fin, de la liberté absolue de sa vie et de sa mort. Désormais, dit-il, l'humanité elle-même fait l'expérience de sa finitude. C'est là, pourrait-on dire, la dernière blessure narcissique dans l'histoire de notre modernité. André Glucksmann, en 83, va plus loin encore et écrit dans l'introduction d'un de ses livres, en parlant, et d'ailleurs il se met dans cette introduction à la place d'une fusée, c'est une fusée qui parle, et il dit la chose suivante. « La dissuasion n'invente pas l'inhumanité, elle la manifeste en la sommant d'exister manifestement. Je ne suis, donc c'est une fusée qui parle, je ne suis ni bonne ni mauvaise, on peut mésuser de moi, je suis vrai, c'est une qualité rare. L'arme nucléaire révèle donc ici, dans cette logique-là, la face cachée de la guerre entre les hommes, sa vraie dimension potentielle. Elle dévoile, en montrant de quoi sont capables les hommes, livrés à leur passion, de quelles extrémités d'inhumanité ils sont capables. Deuxième maxime, l'arme nucléaire est conscience de l'unité de l'humanité face à la menace. À cette prise de conscience de la nature profonde de la guerre et de l'homme s'ajoute très vite, en effet, le sentiment que les enjeux ne concernent plus après 1945 l'individu ou même une communauté politique constituée, mais l'humanité dans son ensemble, qui fait donc l'expérience de son unité absolue. Russell et Einstein écrivent dans leur fameux manifeste qu'il faut désormais, je cite, « se considérer exclusivement comme les membres d'une espèce biologique qui a derrière elle une histoire exceptionnelle et dont aucun d'entre nous ne peut souhaiter la disparition. Tous les hommes sont également en danger. » Carl Jaspers radicalise cette analyse dans une alternative simple. Ou bien l'humanité disparaîtra corps et bien, ou bien l'homme se transformera dans sa condition politique et morale. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, peut-être l'entrée dans l'âge atomique marque-t-elle enfin l'entrée de l'homme par la face négative dans une histoire réellement universelle, c'est-à-dire une histoire où l'humanité peut et doit se poser comme un sujet responsable de lui-même et de son avenir. Troisième maxime, peut-on désinventer l'arme nucléaire ? Car le troisième temps du raisonnement consiste alors à se demander si l'homme peut revenir en arrière dans son histoire, défaire cette rupture anthropologique profonde. Le plus intéressant est ici de revenir aux premiers critiques de l'arme nucléaire, une fois encore, largement oubliées, et notamment dans la troisième phase qui s'est ouverte depuis le milieu des années 2000. Russell et Einstein, encore eux, écrivent à propos du désarmement nucléaire, je cite, « C'est là un espoir illusoire. Quels que soient les accords sur la non-utilisation de la bombe H qui auraient été conclus en temps de paix, ils ne seraient plus considérés comme contraignants en temps de guerre, et les deux protagonistes s'empresseraient de fabriquer des bombes H dès le début des hostilités. En effet, si l'un d'eux était seul à fabriquer des bombes et que l'autre s'en abstenait, la victoire irait nécessairement au premier. » Jaspers, encore lui, va plus loin et souligne que, je cite, « mettre en vigueur sans plus attendre les principes de l'état de paix juridique sans restriction serait pour celui qui le ferait de façon unilatérale commettre un acte de suicide. » Et pour revenir aux fondamentaux de la philosophie politique, citons Hobbes dans le Léviathan. Si les autres hommes ne veulent pas se dessaisir de leurs droits aussi bien que lui-même, nul homme n'a de raison de se dépouiller du sien, car ce serait là s'exposer à la violence, ce à quoi nul n'est tenu, plutôt que de disposer de la paix. Le désarmement unilatéral devient alors équivalent au risque, pour une communauté politique donnée, de s'exposer nu à la violence des autres, plutôt que d'être en chemin vers la paix. Dans la guerre totale, toute convention préalable saute. Le premier à construire l'arme absolue gagne. Le risque est donc grand, dans cette approche, que seuls les dictateurs n'aient l'arme. Raymond Aron soulignait au cœur de la guerre froide la nécessité de regarder les conséquences d'une adoption d'un pacifisme radical à l'ère nucléaire. Quatrième maxime, le désarmement nucléaire dans le cadre d'une paix perpétuelle. Et donc, faut-il s'arrêter là ? Faut-il renoncer à toute finalité morale de l'action des hommes et simplement constater qu'à l'âge nucléaire, cette humanité qui a désormais les moyens de sa destruction ne saura pas trouver les chemins d'un dépassement de cette fausse paix qui n'est qu'une imperfection morale, une absence de guerre. Là aussi, le retour au premier philosophe de la nouvelle ère nucléaire en 1945 est particulièrement éclairant, car l'exigence qu'il pose est bien plus ambitieuse que les critiques contemporaines de la dissuasion. Ils en appellent à une véritable transformation de l'homme et de l'organisation politique de l'humanité à l'échelle du globe. Ils en appellent à ce qu'il faut bien appeler, au sens littéral, une cosmopolitique. Albert Camus soulignait que désormais, je cite, « il va falloir choisir entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques, plaider plus énergiquement encore en faveur d'une véritable société internationale. » Russell et Einstein, toujours eux, lancent cet appel pressant. Je cite, « l'abolition de la guerre exigera des limitations déplaisantes de la souveraineté nationale. Nous invitons instamment les gouvernements du monde à comprendre et à admettre publiquement qu'ils ne sauraient atteindre leurs objectifs par une guerre mondiale. Et nous leur demandons instamment, en conséquence, de s'employer à régler par des moyens pacifiques tous leurs différends. » Jaspers, toujours lui, transforme cet appel en une exigence philosophique de conversion. Il dit, « ou bien toute l'humanité disparaîtra corps et âme, où l'homme se transformera dans sa condition politique et morale. » Il faut que la raison pénètre parmi les peuples pour qu'elle devienne efficace et durable. On ne peut par conséquent éluder la démocratie. Si la raison doit parvenir par la paix mondiale à éliminer les bombes atomiques, ce ne sera que par la démocratie en tant que forme de vie politique. Et nous ne sommes finalement ici pas si loin d'un retour aux conditions posées par Kant pour l'établissement d'une paix perpétuelle. Dans son premier article définitif, la constitution civile de chaque État doit être républicaine. Dès les premiers temps de l'arme nucléaire, celle-ci est donc perçue comme impliquant deux exigences. Une réforme morale de l'humanité elle-même et une transformation de l'organisation des relations internationales. L'arme devient alors un appel pressant, parce qu'elle dévoile de nos capacités de destruction, à réaliser pleinement notre condition d'être de raison, libre et morale. Cette transformation morale de l'homme est bien un préalable au désarmement universel. L'arme nucléaire, celle qui de façon ultime le dévoile comme un être raisonnable et moral, le force à ce choix radical entre l'anéantissement et la création d'une société internationale. Établir donc la paix mondiale sur le droit et non la terreur. Passer de la coexistence armée à la coopération. Tel est l'appel fait à l'homme depuis son entrée dans l'âge nucléaire. On remarquera d'ailleurs que cette exigence est exactement celle posée par nombre de religieux depuis 1945 et rappelée avec force depuis le milieu des années 2000. Cet idéal régulateur, donc tel qu'on le définit, impose des contraintes en attendant sa réalisation. Car cette approche insère l'arme nucléaire dans une vision morale de l'homme, de sa finalité historique et des relations internationales. Revenons là, une seconde, à la philosophie et à la définition du bien et du mal. On peut dire en effet, avec les critiques radicaux de l'arme nucléaire, que celle-ci doit être perçue comme une imperfection, un défaut, par rapport à ce qui devrait être, selon la formule de saint Thomas d'Aquin. Le mal est une privation, une chose privée d'un bien, une imperfection, une déficience. La morale ne saurait s'abstraire des circonstances historiques. En situation d'existence de l'arme nucléaire, la dissuasion est un moindre mal par rapport à une doctrine d'emploi. Ne peut-on dès lors aller jusqu'à dire, peut-être de façon provocante, que la dissuasion peut être à la fois un bien politique, puisqu'elle vise pour une communauté politique à la conservation de son être, un bien stratégique, puisqu'elle instaure un équilibre précaire et instable de sécurité en tension avec le bien absolu que serait la coopération, et un bien historique, puisque la dissuasion concourt à la diminution historique de la violence militaire, même de façon paradoxale. La paix nucléaire est une paix armée, négative, car elle se caractérise uniquement par une situation privée d'un mal. C'est le paradoxe souligné par Aron, la possibilité d'une menace illimitée restreint la menace effective de destruction. Mais le mal ne fait pas sens seul. Il est pris dans un couple dialectique avec un bien. Le mal suppose toujours la relation à un bien, de telle sorte que la situation privative, propre à notre monde nucléaire, est celle d'une époque de l'histoire humaine qui aspire à la recherche d'un véritable bien historique, qui pose l'exigence de la paix, non comme une simple inhibition de la violence, mais comme un état de coopération et de concorde entre les États. Cette conception suppose une forme de finalité du devenir historique, qui n'est ni une donnée de l'expérience, ni indexée sur une quelconque forme de providence. Quelles conséquences faut-il en tirer sur la conduite des hommes dans cette phase transitoire de leur devenir historique qu'est l'âge nucléaire et l'équilibre de la terreur ? Quelques exigences pour conclure. Première exigence, la dissuasion comme un outil de limitation de la violence historique. Hegel a posé quelques principes qui peuvent ici nous guider. Impératif de conversion de la violence en langage, création d'une situation instable et précaire de spiritualisation de la violence, exigence de retenue des volontés. Raymond Aron le traduisait en termes plus stratégiques. Le jour où se serait établie une sorte d'égalité en fait d'armes de destruction massive, la crainte de représailles pourrait inciter les combattants à la modération. La paix naissant de la peur, ce ne serait pas la première ni la pire des ruses de la raison. Deuxième exigence, un objectif restreint et limité fixé à la dissuasion. Car pour que cet objectif transitoire de limitation paradoxale de la violence soit réalisé sans mettre en péril l'idéal qui doit in fine la dépasser, il devient indispensable de circonscrire son rôle aux circonstances les plus extrêmes. Jaspers, encore, lui, posait une exigence très élevée. En face de la bombe atomique, considérée tout simplement comme le problème de l'existence de l'humanité, il n'y a qu'un seul autre problème qui ait la même valeur, le danger de la domination totalitaire, avec sa structure terroriste qui abolit toute liberté et toute dignité humaine. Là, on perd l'existence. Ici, on perd l'existence digne d'être vécue. La menace totalitaire, au sens du nazisme ou du communisme soviétique, n'est plus, mais cette exigence invite à limiter le rôle de la dissuasion à la préservation par une communauté politique constituée, dirait Kant, d'hommes, de citoyens et de sujets, de son existence digne d'être vécue et donc libre. Cela réduit singulièrement la nature des menaces auxquelles s'adresse la dissuasion. Troisième exigence, une conscience permanente du caractère transitoire de cet état historique. André Glucksmann, encore lui, dans son livre, rappelle le caractère profondément transitoire et imparfait de la dissuasion à l'âge nucléaire. Et en reprenant la définition de la justice par Glaucon dans la République de Platon, il dit « Telle serait tout à la fois la genèse et l'essence de la justice, qui est à mi-chemin entre ce qui est le mieux, commettre l'injustice sans être châtié, et le pire, subir l'injustice sans être capable de s'en venger. » La dissuasion est donc bien cette définition à mi-chemin de la justice, dans l'attente d'une unification du monde sous un même système de normes et de principes moraux. Quatrième exigence, et je passerai rapidement sur celle-là, c'est le retour à l'autorité légitime, à la démocratie et à la délibération. Ici, on soulignera simplement à nouveau le soin qui doit être apporté dans cet état transitoire d'imperfection qu'est l'âge nucléaire à l'actuel, à la tension entre dissuasion et démocratie, entre délibération collective et décision individuelle, entre débat public et préservation du secret. Cette exigence est d'autant plus importante si l'on accepte le postulat que parmi les conditions de réalisation de la Concorde figure la forme républicaine des États. Il ne faudrait pas que la dissuasion empêche cette ambition historique. Traduisons pour finir cette série d'exigences philosophiques et morales en principe de stratégie nucléaire. Raymond Aron soulignait que la raison des stratèges nucléaires est par essence immorale, puisqu'elle accepte ou décide conditionnellement un acte pervers, l'extermination de milliers d'êtres humains. Les théologiens, dit-il, n'ont pas réussi à surmonter l'antinomie. Dès lors que ces armes existent, la menace de les employer contribue à prévenir les guerres. Mais la menace même conditionnelle de les employer n'en est pas moins monstrueuse, puisque la mise à exécution le serait. Toutes les subtilités de la stratégie nucléaire ne résolvent pas ce paradoxe, ils l'atténuent. Et tout est là. Notre situation nucléaire, ressaisie à l'aune de la morale, est contradictoire. On peut contenir l'immoralité, on peut l'atténuer, mais on ne peut pas résoudre complètement ce paradoxe moral fondamental sur lequel repose la dissuasion. Et afin de l'atténuer, on peut ici reprendre certains des postulats tirés plus tôt de l'étude des critères de la guerre juste et essayer de fonder une théorie morale de la dissuasion nucléaire dans le cadre que je viens d'évoquer sur les quelques principes qui suivent. Ces principes sont simples. L'arme nucléaire ne saurait être qu'une arme d'empêchement de la guerre majeure entre grandes puissances. Elle doit être limitée dans sa diffusion et dans sa finalité stratégique. Autrement dit, si arme nucléaire il doit y avoir, elle ne peut être que de dissuasion. Ensuite, la menace d'emploi de l'arme nucléaire ne saurait être acceptée que dans des circonstances extrêmes de légitime défense face à une menace extrême elle-même. Il s'agit de préserver ici ce bien essentiel à la condition humaine, qui est la possibilité pour une communauté politique de vivre et de vivre libre. La dissuasion nucléaire doit donc être liée à la survie même de la communauté politique, dans son existence physique ou dans son refus de l'asservissement qui serait la fin de son existence morale et républicaine. La dissuasion doit enfin s'inscrire dans un effort nécessaire et impératif de limitation de la course aux armements, c'est-à-dire dans un refus de la dérive vers l'hégémonie, vers la victoire. Il s'agit ici, pour être conforme à l'idée régulatrice qui guide tout notre projet historique et politique, de poursuivre systématiquement la domestication de la violence par le droit. Traduit en termes stratégiques, et pour reprendre les exigences de Russell et Einstein dans leur manifeste, cela signifie de toujours chercher à conclure et adopter des accords juridiquement contraignants de maîtrise des armements et de désarmement progressif, multilatéral et négocié. Enfin, cette acceptation conditionnelle et transitoire de la dissuasion doit faire l'objet d'un encadrement par les grands principes de la guerre juste, l'autorité légitime, la proportionnalité, la distinction, l'intention, la juste cause. Cet encadrement répond à ce que l'on pourrait appeler, de façon un peu provocante, un impératif catégorique nucléaire, et qui pourrait se résumer ainsi. Ne fait rien aujourd'hui en matière nucléaire qui empêcherait ou éloignerait la réalisation de la paix entre les nations, de la transformation radicale de l'homme comme être libre et moral, et de la possibilité pour ta communauté politique de participer à cet avenir. C'est donc bien là un idéal régulateur que nous avons défini. Le principe à partir duquel un État doit régler ses actions pour faire advenir un certain état du monde conforme à la raison. Dans l'ordre historique, la paix perpétuelle a cette fonction. Elle ne se décrète pas, elle ne se déclame pas. Elle est le principe à partir duquel les multiples progrès du droit prennent le sens d'un progrès historique général. Il n'y a donc pas de passage immédiat de la conflictualité historique rendu extrême à l'âge nucléaire, au règne de la morale, mais au contraire, un lent travail historique opéré par la médiation du droit. Je vous remercie.